Du 25 au 29 septembre, au cœur de Manosque, c'est la 26e édition du festival Les Correspondances. Retrouvez sur Fréquence Mistral les interviews et reportages dans les matinales et les magazines pendant toute la durée de l'événement. Et samedi 28 septembre, de 10h à 16h, Fréquence Mistral sera en plateau extérieur, place des Marchands, pour recevoir des auteurs, des représentants d'associations, des membres de l'organisation et des lectrices et lecteurs. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Fréquence Mistral.
Bonjour, je m'appelle Eric Pessan, je suis écrivain, j'écris des romans, j'écris du théâtre, j'écris de la poésie, j'écris des récits. Je travaille depuis une vingtaine d'années avec l'Observatoire de l'espace, le laboratoire Art Science du Centre National d'Études Spatiales. Et j'écris des romans pour adolescents également. Et je suis ici à Manosque, invité par l'association Éclat de Lire pour leur prix littéraire départemental, où l'un de mes romans, qui s'appelle Le Soleil Nouveau Chaque Jour, a été sélectionné.
C'est le dernier?
Alors, c'est le dernier roman que j'ai écrit pour la jeunesse, oui. Voilà. Il a été publié en septembre de l'année dernière, aux éditions d'École des Loisirs.
En quoi va consister cette rencontre?
J'en sais strictement rien. Voilà, c'est une rencontre. Donc, ça veut dire que il y a quelqu'un qui s'appelle Maya Michalon qui va me poser des questions. Il y aura du public et puis je vais essayer de trouver les réponses aux questions qu'on va me poser. Voilà. Ce que je trouve important, c'est que a priori le public va être un public d'adolescents qui vont donc rencontrer un auteur vivant. Ils ont quand même une certaine tendance. Enfin, l'année dernière, un élève m'a demandé si j'avais connu Victor Hugo. Donc, ils ont quand même une certaine tendance à penser que tous les écrivains sont vieux, morts et barbus. Voilà. Alors moi je suis plus très jeune, mais je suis encore vivant, je suis pas barbu. Ce qui pour moi est important dans ce genre de rencontre, vraiment, c'est de donner envie, de susciter le désir. Voilà. Ces prix littéraires, comme celui d'Éclat de Lire, ça permet de donner à des jeunes gens l'envie de lire un bouquin, parce qu'ils se sentent investis d'une certaine responsabilité. Ils sont jurés, ils vont voter pour un livre, etc. Donc voilà, si ça peut leur donner envie de lire, peu importe si on a le prix ou pas. L'important, c'est ce qui se passe là pendant ces rencontres et pendant toute la dynamique de instaurée par ce genre de prix.
Oui. Oui, ils sont acteurs, en fait. Vous les mettez au cœur du...
Alors, c'est pas moi qui les mets, c'est l'association. Alors,
mais, bien sûr.
Mais oui, ils se sentent... Ils comprennent qu'il y a... J'ai envie de dire un grand mot là, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose de démocratique là-dedans, puisque leur voix va compter. Voilà. Et ils peuvent mettre en avant un livre qui j'ai déjà assisté à des débats entre lycéens comme ça. Parfois c'est assez acharné. Alors des fois c'est calme plat, et il y en a deux, trois qui ont des convictions qui emportent le morceau, mais des fois ça peut être assez acharné. Ils défendent leur livre, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, ils sont obligés de formuler les raisons pour lesquelles ils ont aimé, et c'est formidable.
Vous les trouvez passionnés?
Oui, parfois, oui, bien sûr. On dit que les jeunes ne lisent pas, ce qui est un fait, statistique, énorme. Mais quand on leur donne la possibilité de lire, bah oui, ils vont lire, oui. Ouais.
Même quand on donne aussi la possibilité à de jeunes enfants, comme fait l'association Éclat de Lire, on a pu aller sur des ateliers hier des enfants de 6, entre 6 et 12 ans, lorsqu'on leur donne la possibilité, ils ont beaucoup de talent.
Oui, oui, sans doute, oui, bien sûr.
Et puis ils prennent cette parole.
Et ils prennent cette parole, oui, complètement.
Alors sur quoi porte votre livre ?
Alors, Le Soleil Nouveau Chaque Jour est l'histoire d'une petite vingtaine d'adolescents, de jeunes adultes, enfin les deux, qui ne se connaissent pas forcément, certains oui, d'autres non, qui sont plus ou moins rencontrés par des réseaux militants sur les réseaux sociaux, et qui partent quelque part en Moselle, dans un lieu un peu sinistré, puisqu'il y a eu la crise de la sidérurgie, il y a un taux de chômage assez important, et sur une commune qui s'appelle Assiange, et ils vont installer des cabanes dans les arbres, d'un bois qui doit être rasé pour construire une plateforme de vente en ligne d'une immense multinationale, qui n'est pas réellement nommé dans le roman. Voilà. Et le siège commence. Ils sont là, ils ont installé des cabanes, ils ont prévu des vivres. Ils pensent, ils ont aussi prévu la manière de médiatiser leur action. Et ils pensent que ça ne va pas durer longtemps. Et en fait, la police arrive, le siège commence et ça dure. Voilà, ça s'installe.
Ça dure combien de temps? Parce qu'il y a une dame qui s'appelle Julia Hills, peut-être la connaissez-vous, une écologiste américaine qui, il y a 20 ans, lorsqu'elle était très jeune, ne connaissait absolument rien à l'écologie. Je fais juste un pont parce que tout est lié, en fait. Julia Hills, jeune écologiste, a finalement a passé 2 ans au-dessus du sol, à 60 cm du sol, dans un séquoia millénaire. Ça devait durer juste quelques semaines et ça a duré 2 ans. Donc j'imagine bien que ces adolescents vont vivre des choses assez incroyables. Et puis dans le groupe aussi, non ?
Voilà, c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont mises en place, alors ça ne dure pas 2 ans, mais ça s'étale sur une partie de l'été. Mais une fois que les choses sont mises en place, ces adolescents qui sont là unis par une même cause, une même conviction, le groupe va petit à petit se fendiller. Il va y avoir évidemment le fait de... Voilà, c'est une sorte de huis clos dans les arbres. Voilà. Et ça m'intéressait beaucoup. Il y a des histoires d'amour qui se font et se défont. Enfin, parce que c'est pas un tract que j'ai écrit, c'est un roman. Pour moi, j'avais envie de faire vivre ces jeunes gens. Et donc, ces jeunes gens, tout fort soit-il de leur conviction, ils se retrouvent à gérer un quotidien, à gérer une lenteur, à gérer une attente et à gérer des tensions entre eux qui n'étaient pas prévues.
Ouais. Ouais.
Et des émotions, oui, bien sûr. Ouais.
On ne dira pas la fin, mais sans doute, ça a dû énormément passionner les adolescents qui vont débattre, qui vont vous rencontrer aujourd'hui, non ?
J'en sais strictement rien, ça va être à eux de me le dire. Ce livre, je l'ai écrit, quand je l'ai écrit, l'occupation des arbres pour ce chantier de A69, par exemple, n'avait pas commencé. Donc en fait, il est, d'une certaine façon, il est en pleine actualité. C'est toujours très délicat de discuter, j'ai rencontré des classes avec ce livre, c'est toujours très délicat de discuter de cette désobéissance civile, de qu'est-ce que l'on peut faire contre la loi quand l'on pense que l'on est dans la justesse, parce qu'on rentre tout de suite en phase avec l'actualité, je pense à Gaza, à Israël, le Liban maintenant. Donc ça crée souvent des débats extrêmement tendus parfois, mais absolument passionnants.
Alors comme ça a déjà été étudié par des adolescents, quel retour vous en avez eu ?
Alors, retour numéro 1, globalement, la cause écologique ne passionne pas les adolescents, absolument pas. Voilà, ça c'est où que je passe, je me rends compte que l'écologie, c'est pas leur truc.
Alors, vous m'étonnez parce que en ce moment, c'est vraiment d'actualité.
Oui, mais Greta Thunberg, c'est l'arbre qui cache le désert, en fait. Voilà, les jeunes gens... Globalement, alors évidemment, ce que je dis est à prendre avec mille nuances. Il y a énormément d'exceptions à ça. Mais globalement, sur une classe, je vois un ou deux regards qui brillent sur une classe de 35. Quoi. Voilà. La cause écologique, ça ne les intéresse pas. Le fait, par contre, le côté désobéissance civile, comme je disais tout à l'heure, le fait d'aller défendre quelque chose qui fait partie d'une conviction profonde et d'un profond sentiment du juste et de l'injuste, et de le défendre tout en se mettant dans la loi, ça rentre en écho avec plein de choses importantes pour eux, voilà. C'est plus la description d'un combat que les raisons pour lesquelles le combat a lieu, parce que aussi, très, très concrètement, lutter contre Amazon, eux, ils trouvent ça chouette de commander tout ce qu'ils veulent sur Amazon, ils voient pas pourquoi il faut lutter contre Amazon, donc ça demande un peu de pédagogie dans la discussion avec eux.
Que peut-on vous souhaiter cet après-midi ? Pardon, que peut-on vous souhaiter pour ce matin, pour cette rencontre ?
Une rencontre animée et houleuse, j'adore ça.
Je m'appelle Laetitia Fourquin, je suis directrice de l'association Éclat de Lire. Je voulais juste ajouter une petite chose. Éric Pessan disait ce qui est important dans un prix littéraire, c'est que les jeunes se sentent acteurs, puisque c'est eux qui vont choisir, c'est eux qui vont débattre. Et c'est une question qui nous intéresse beaucoup aussi à Éclat de Lire. Et du coup, ce prix littéraire, on essaye au maximum, effectivement, qu'ils le prennent pour eux. Notamment, par exemple, sur la journée de remise du prix au mois de mai, c'est eux qui vont animer le débat avec les auteurs invités. Une classe va travailler avec Maya Michalon, qui est donc... médiatrice littéraire et éditrice en plus à l'École des loisirs, qui va parler de comment on anime une rencontre. Et puis, ils vont se choisir entre eux, 3-4 élèves qui vont animer le débat. Et puis, une autre classe va travailler toute l'année avec un collectif, le collectif Et autre chose inutile, à mettre en voix et en musique des extraits qu'ils auront choisis, des œuvres sélectionnées, alors pas toutes les œuvres bien sûr, mais du coup de voir leur père sur scène, qui ouvre la journée, tout de suite le public, parce qu'un public d'adolescents, peut y avoir jusqu'à 300 élèves de collège et lycée, ça peut être assez... et là il y a une écoute, voilà. C'est eux qui sont sur scène. Donc, on espère que ça se passera comme ça cette année aussi. Mistral. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strange. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me, but you can't twist time. Strange.
Littéraire par Bastien Lallemand, Maëva Lebert, Jean-Pierre Nataf et Célia Oudiard. Petite salle du théâtre Jean Le Bleu. Vous les entendez en ce moment. S'allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival, pour 60 minutes de chansons et lectures. Thank you. Oui, madame, vous venez d'assister à la sieste littéraire.
C'est très mélodieux, la musique est très très adaptée à la sieste. Par contre, les textes étaient inaudibles. Pour moi, j'entendais rien. Elle n'avait pas de micro et ça m'a gênée.
Et vous, madame, vous avez pu vous reposer? Vous auriez voulu un petit peu plus de texte?
J'aurais volontiers écouté un peu plus de texte. Merci.
C'était très agréable, c'est un moment vraiment très agréable. Des chansons originales, des textes aussi qui vont vraiment très bien avec la musique et avec l'ambiance.
C'est la première fois que vous assistez à une sieste littéraire?
Non, moi non.
Vous êtes une habituée?
Oui.
Moi, c'est la première fois et je suis ravie. Parce que là, c'était vraiment un moment magnifique. J'ai trouvé les chansons qui allaient très bien avec les lectures. Donc voilà, c'était parfait.
Non mais même chose, une atmosphère vraiment très très agréable. Et puis moi, ça me donne vraiment envie de lire aussi ce livre, parce que je trouve que l'entendre dans ce fond musical et dans cette ambiance-là, oui, ça me donne vraiment envie de lire ce livre.
Nous nous trouvons à l'espace jeunesse, esplanade François Mitterrand, pour un atelier d'illustration avec Guillaume Ruffaut, Fleurs imaginaires. C'est pour les scolaires du CP au CM2.
C'est quoi ?
Bonjour, est-ce que je peux savoir ce que tu fais ?
Des fleurs.
Il te plaît cet atelier ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que j'aime le découpage, j'aime le coloris, j'aime les fleurs.
Et toi ?
Moi j'aime coller, j'aime bien bricoler. J'aime bien cette activité, ça me plaît, ça m'intéresse et voilà.
Est-ce que tu aimes lire ?
Oui.
Beaucoup ?
Oui. Je m'appelle Estrella. Et je suis venue parce que j'adore faire ça, parce que des fois je viens ici avec mes parents. Hein.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là?
Je viens faire des découpages, on fait des fleurs qui n'existent pas.
Et toi?
Je m'appelle Liv et j'aime beaucoup dessiner, découper, j'aime beaucoup faire de l'art et j'attends ça depuis qu'on m'a dit que de faire cette sortie, j'attends plus que ça et j'aime faire des activités.
De quelle école tu viens?
Je viens de la Lucchese.
Et toi, bonjour?
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Isaac.
De quelle école tu viens?
La Lucchese.
Qu'est-ce qui te plaît ici?
La nature et je suis curieux.
Moi aussi je suis presque.
Et la science.
Et toi, bonjour.
Bonjour.
Ton prénom?
Blaise.
De quelle école viens-tu, Blaise?
Lucas.
Bonjour, je m'appelle Yanis et là on est en train de faire des fleurs. Mais aujourd'hui là on était à l'école le matin, on a travaillé, là on est là, je m'appelle Samve. Et là, pour l'instant, j'ai fini ma fleur. Et là, j'ai en train d'attendre que les autres aient fini. Et là, j'ai en train de faire des bouts de papier en feuilles. Et des fleurs, voilà.
Pourquoi tu aimes la science?
Parce qu'en fait, j'aimerais bien découvrir la nature, et l'état des les fleurs, les plantes, comme ça. Et
Je m'appelle Blaise, je suis à l'école de la Lucchese et je suis curieux de la nature parce que j'aimerais bien découvrir des animaux.
Alors là, par exemple, vous avez des bouquins avec des fleurs. Qu'est-ce que vous découvrez comme fleurs?
Les pétales.
Les marguerites.
On a des roses.
La pâquerette.
Oui, voilà, j'aimerais rencontrer un grizzly.
Guillaume Ruffaut, vous encadrez cet atelier. Les enfants ont l'air passionnés, heureux, et tout se passe dans la joie de vivre. Et la découverte, bien entendu.
Oui, en fait, je leur donne quelques bases de botanique. Et on fait une petite composition artistique. Et ils découvrent comme ça les plantes, mais en faisant une plante imaginaire.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer cet atelier?
C'est des déambulations au jardin du muséum à Toulouse. où les gens observaient les plantes et ensuite en atelier recréaient des petits herbiers comme ça. Et voilà, je leur donne des notions d'harmonie de couleurs. En fait, c'est la rencontre entre l'art et la botanique. Donc faire quelque chose de ludique tout en étant un peu pédagogique, quoi.
Donc chacun réalise une œuvre individuelle, puis après ça va être une œuvre collective.
Eh bien ça, c'est si on a le temps, on faisait en plus une œuvre collective. Mais là, je pense que vu que ça fait déjà une heure et demie et qu'ils vont pouvoir fignoler leur œuvre, ce sera déjà pas mal, quoi.
J'ai pensé que c'était bien et que je me suis amusée avec tous mes copains.
Qu'est-ce que tu as fait ?
J'ai fait des poésies, on a fait un code secret.
Tu es dans quelle école de Manosque ?
École Lucas.
Et cet atelier, il était trop bien.
Pourquoi ?
Parce qu'on faisait des trucs manuels, on pouvait découper, coller, c'était superbe. Et du coup, ça serait bien si on repassait une autre fois.
Et moi, je me suis amusée et ils étaient très bien les histoires.
Mais je dis c'était bien. Aussi, on a fait des poésies avec des livres, avec des trucs rigolos et on a fait des jeux de mots et tout. C'était rigolo.
Ben, moi, j'ai bien aimé quand on a coupé les étiquettes, quand on a collé, c'était bien parce qu'on était avec nos amis, on rigolait. Et ben, du coup, j'ai bien aimé cet atelier, j'aimerais qu'on repasse un jour.
Vous avez entendu les enfants qui ont participé à l'atelier carte postale Zinzin, un atelier d'illustration avec Fanny Pajot pour des scolaires du CE1 au CM2, toujours sur l'esplanade François Mitterrand. Fanny Pajot.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes autrice ?
Oui, autrice et illustratrice.
Et qu'est-ce qui vous a motivé pour proposer cet atelier ?
Alors, donc, c'était une invitation de l'association Éclat de Lire à venir animer des ateliers. Moi, j'aime bien animer des ateliers qui accompagnent mes livres. Donc, je présente mes livres jeunesse, donc selon l'âge, l'un ou l'autre. Et j'anime des ateliers plutôt ludiques et créatifs que les enfants peuvent s'approprier facilement. Et cet après-midi, donc, avec la classe de CE1, CE2, j'ai fait un atelier autour de mon livre qui s'appelle Poésie. Poésie sont deux personnages qui s'opposent, mais qui ensemble composent une poésie. Donc c'est un livre qui est sorti cette année et donc j'ai invité les enfants à composer un petit poème un peu zinzin sur une carte postale avec toutes les syllabes qui contiennent le son P, donc papepi, popu, etc. et le son ze, zazozizozu. Donc ça a donné des poésies un peu zinzin avec, voilà, et parfois on peut tomber sur des sons comme zoiseau, zépuisé, papipepu, etc.
Beaucoup de bonne humeur dans cet atelier, j'ai pu constater.
Oui, parce que évidemment, je les ai fait régresser 2-3 années avec Pipi Popo Zizi. Voilà, ça les a fait beaucoup rire. Certains se sont appropriés ces sons-là et ont joué avec. Et l'idée, c'était aussi de composer graphiquement aussi sur la carte. On n'est pas obligé de suivre les lignes, d'avoir ce caractère très peau de la poésie. Donc ça, faut connaître mon livre, mais peau est très dans les règles, discipliné, la répétition. Et Zizi est plutôt zinzin, désobéi, et donc va plutôt coller un petit peu de travers, etc.
Qu'est-ce qui vous surprend chaque fois quand vous donnez un atelier comme ça ? Qu'est-ce qui vous surprend chez les enfants ? Qu'est-ce qui ressort ?
C'est leur personnalité qui ressort en fait. Peu importe l'atelier, que je fasse un atelier de tampon, de collage, en fait on va voir les minutieux, ceux qui sont plus à faire plus excentriques ou qui. Il y a la personnalité qui ressort et ça j'adore, c'est de pouvoir lire au travers leur création en fait.
Un enfant me disait, ça m'a donné envie de lire.
Bah, c'est super. Moi, c'est le but de ces interventions, c'est qu'ils s'approprient les livres autrement que ceux qu'on donne forcément à l'école pour travailler. En fait, il y a aussi le plaisir et donc là, c'est gagné en fait.
Et l'imagination,
après, ils en ont, mais c'est savoir s'en servir après et oser en fait s'en servir.
Monsieur, vous êtes sur un écritoire là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire et quel est le contact que vous avez établi ?
Moi, je suis le président du club philatélique de Sainte-Tulle et je suis venu voir mes collègues de Manosque Philatélie. Alors, comme chaque année, je viens les voir.
Qu'est-ce que vous en pensez du stand ?
Le stand, il a un peu réduit cette année, c'est vrai. Mais c'est bon, il y a toujours de quoi faire et donner l'envie de collectionner.
Oui. Est-ce que les personnes ont envie de collectionner, alors d'après ce que vous voyez ?
Là, j'en ai pas vu beaucoup. Non, les gens portent surtout leur courrier pour avoir un endroit gratuit. Voilà.
Monsieur, alors vous tenez ce stand. Comment ça se passe depuis ce matin ? Ça gravite ? Les gens viennent, ils posent des questions ?
Bah écoutez, aujourd'hui c'est formidable par rapport à hier, parce que c'était un peu sinistre hier. Mais c'est-à-dire que les gens allaient aux interviews, là, mais ça ne circulait pas beaucoup. On est content de voir un peu le soleil, et puis, même s'il y a un peu de vent, bah, c'est pas grave.
Julie Ménard, vous êtes autrice de livres jeunesse et dans le cadre du festival littéraire Les Correspondances. Vous êtes une invitée de l'association Éclat de Lire spécialisée dans l'édition jeunesse. Alors ce matin, place de l'Hôtel de Ville, vous avez participé à une rencontre animée par Salomé Kinner autour de votre livre Glovy.
Absolument.
Alors comment s'est déroulé ce moment de partage ?
Ben, c'était vraiment très, très agréable pour moi. C'était vraiment joyeux parce qu'il y avait à peu près 150 élèves de collège et de lycée et que je les ai sentis très, très attentifs et très curieux et ils avaient préparé des questions qui étaient vraiment super intéressantes.
Oui, apparemment, je rebondis sur ce que vous dites, le public a répondu présent et semblait conquis.
Bah oui, en tout cas, moi de mon côté, j'étais très heureuse. Oui, j'ai senti qu'effectivement, il y avait un intérêt de ces jeunes futurs lecteurs parce qu'ils n'avaient pas, pour certains, pas lu encore le texte. Voilà.
Donc, comment s'est déroulée cette rencontre ?
Et ça a duré une heure et demie à peu près. Il y avait une heure de questions que me posait Salomé. Voilà, sur mon parcours d'autrice et puis ce qui m'avait amené à écrire cette pièce. Et puis moi, j'ai lu deux extraits et ensuite, il y avait une demi-heure à la fin réservée aux questions des jeunes spectateurs, spectatrices.
D'accord. Quel a été le retour, justement, du public ? Les questions qui vous ont été posées,
les questions, c'était, il y avait plein de questions très différentes. C'était aussi une question qui m'a marquée. C'était la dernière d'ailleurs. C'était une jeune fille qui me disait qu'elle l'écrivait elle aussi et qu'elle me demandait un peu comment faire parce qu'elle avait du mal à structurer son récit, que ça partait dans tous les sens et tout. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant de poser cette question.
Et que peut-on, peut-on savoir ce que vous y avez répondu ?
Et ben, je lui ai répondu qu'avant de chercher à structurer, qu'il fallait qu'elle continue comme ça dans ce flow qu'elle a, en fait, d'avoir envie d'écrire plein de choses, même si ça part dans tous les sens, et qu'après, c'est dans un second temps en fait, où elle pourra essayer de voir comment relier les textes entre eux, comment structurer un peu le récit, voilà.
Oui. Alors votre livre, le titre du livre c'est Glovy,
oui.
Que vous présentiez ce matin. De quoi parle-t-il ?
Alors Glovy, donc c'est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de Glovy, qui a 10 ans et demi et qui vit avec sa maman Ina dans un endroit qui s'appelle le Générator, qui est un hôtel. Donc voilà, en fait, elles sont toutes les deux dans une situation un peu compliquée. La maman de Glovy travaille dans un bar et en fait, on en parle dans la pièce. En fait, voilà, elle cherche à pouvoir louer un appartement, mais elle n'y arrive pas. Donc là, elles sont un peu en stand-by dans cet hôtel. Et pour réussir à se sortir un peu de cette situation un peu triste. En fait, Glovy et sa maman ont un super pouvoir qui est l'imagination. Et donc, elles se racontent une histoire et elles se disent qu'elles sont dans un vaisseau spatial en transit pour aller dans un plus grand vaisseau, pour ensuite aller dans un autre univers. Voilà. Et donc, c'est vraiment une pièce qui parle de courage, de comment est-ce que grâce à l'imagination, grâce à l'humour, en fait, on peut essayer de se réconforter quand on vit une situation un peu compliquée.
Cela fait combien de temps que vous êtes spécialisée dans le livre jeunesse ?
Alors ça fait... En fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis vraiment spécialisée dans l'écriture théâtrale. Mmh. Donc j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre pour vraiment le tout public. Et en fait, Glovy, c'est ma première pièce à destination de la jeunesse. Donc c'était il y a 4 ans.
Autant pour moi, vous n'écrivez pas de livres à proprement parler. Vous êtes plutôt tournée vers le spectacle vivant, mais pour un public jeune.
Voilà, c'est ça. En fait, j'écris des pièces donc, qui sont pour le tout public. Et on m'a commandé, voilà, il y a 4 ans, c'est rigolo. En fait, d'un coup, en fait, il y a plusieurs compagnies ou théâtres qui m'ont commandé des pièces à destination du jeune public. Donc j'en ai écrit plusieurs depuis. Voilà.
Et vous l'avez pris comment ? Comme un signe de la vie ?
En fait, ce qui est rigolo, c'est mais carrément comme un signe de la vie. Bah, déjà, moi, j'étais trop contente, parce que ce qui est intéressant, moi, dans mon travail, c'est en fait un peu de relever tout le temps des nouveaux défis. Donc, comme je n'avais jamais écrit pour ce public-là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'était l'année avant que j'ai moi-même un enfant. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, en fait, c'est un peu... C'est rigolo, quoi. Je me suis rapprochée un peu du territoire de l'enfance avant d'être moi-même maman.
Oui, c'est peut-être pas un hasard finalement.
Et voilà.
C'était peut-être un signe de la vie.
Tout à fait.
Tout est lié. Quelles sont vos dernières questions, Julie? Quels sont vos futurs projets?
Alors mon futur projet, en fait, maintenant j'ai une compagnie de théâtre, donc je fais de la mise en scène de mes textes. Et donc mon futur projet là de mise en scène, c'est de réussir à mettre en scène un de mes textes qui s'appelle 160. Voilà, qui est un texte choral qui raconte la vie d'un immeuble qui accueille une femme âgée qui perd la mémoire, voilà. Et en fait, c'est un spectacle qui sera musical. Donc ça, c'est voilà ce que j'aimerais faire le plus vite possible.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ce qu'on peut me souhaiter, que je trouve des gens qui soutiennent mon travail. Bah comme d'ailleurs, enfin, j'étais vraiment très heureuse moi de cette invitation. C'est vraiment recevoir une invitation de l'association Éclat de Lire, en fait, que ma pièce elle soit choisie pour être finaliste de ce prix, c'est vraiment très très encourageant, quoi. Enfin,
totalement.
Voilà. Oui.
Alors je tiens à préciser que, parce qu'on peut le souligner, parce que c'est une chose assez rare, que la rencontre de ce matin était aussi en langue des signes.
Oui, absolument. Il y avait deux interprètes qui traduisaient tout ce que je disais en signant. Et alors moi, des retours que j'ai eus, parce que hélas, je ne pouvais pas tout à fait le voir parce qu'elles étaient vraiment à côté de moi. En fait, elles se relayaient toutes les 15 minutes. Et en fait, je pense que ça a vraiment donné une dimension un peu vraiment spectaculaire, en fait, aussi à la rencontre. Notamment, en fait, au moment, c'est ce qu'on m'a dit, en fait, notamment au moment des... Moi, j'ai lu des extraits de mon texte. Et en fait, elle le vivait.
Elle le signait,
l'interprétait et tout. Donc ça donnait vraiment même une dimension assez théâtrale, en fait.
Oui, ce qui rejoint ce que vous faites. Merci.
Merci à vous.
Thank you.
Julie Ménard. Avec Glovy, est-ce que le terme de histoire rêvée, ça colle avec l'écriture que vous avez apportée et cette personnalité que vous avez mis également dans ce texte?
Oui, tout à fait, parce que Glovy, c'est vraiment un personnage qui rêve sa vie complètement, qui invente sa vie pour supporter un quotidien qui est un peu assez triste. Voilà, elle s'invente complètement un monde, elle tripe avec sa maman.
Là, nous sommes dans un texte qui va droit au but, hein, si je puis dire. Nous sommes dans le texte du théâtre. Langage jeune également, que vous avez voulu, c'est vraiment l'identité.
En fait, j'ai voulu que Glovy, c'est une enfant qui a 10 ans et demi. Donc, j'ai voulu qu'elle parle. Elle est contemporaine, donc elle parle avec le langage que les jeunes personnes peuvent utiliser. Et en même temps, à la fois, c'est ça. Et puis aussi, elle invente un peu aussi son propre langage avec un peu ses propres expressions. Elle détourne un peu des expressions d'adultes.
Julie Ménard, vous nous emportez dans un univers et là vraiment nous passons effectivement dans une autre dimension avec un vaisseau spatial, avec une chambre en parallèle qui est plutôt sordide et cette petite fille ou peut-être ce petit garçon aussi va faire ce rêve, va faire cet imaginaire et partir dans une autre dimension.
Oui, voilà, Glovy, en fait, c'est un personnage que je voulais en fait que tous les enfants puissent s'identifier. Donc, c'est une fille ou un garçon, c'est pas tellement important. Et donc, Glovy vit dans un hôtel avec sa maman, voilà, parce qu'elles sont dans une situation de grande précarité. Et donc, pour supporter ce quotidien, Glovy et sa mère imaginent qu'en fait, elles sont dans un vaisseau spatial et qu'elles doivent trouver le poste de commande pour réussir à embarquer dans un plus grand vaisseau, dans un autre univers. Voilà, donc c'est un mélange en fait de vraiment qui est très proche d'une réalité effectivement assez difficile et en même temps on bascule dans un monde complètement fantastique de science-fiction. Voilà.
Nous sommes dans un rapport très, on va dire, bon, en même temps direct et tendu entre la maman et Glovy, puisqu'à un moment donné, Glovy va prendre un verre d'eau donc à la figure, la tension monte.
Oui, j'ai essayé de coller un peu au plus près de la réalité des rapports enfants-parents, et où des fois, effectivement, ça peut un peu chauffer, et la maman, elle déborde, et voilà, elle fait, des fois, elle a des gestes un peu brusques sur son enfant, et c'est un peu, elle se chamaille toutes les deux, mais bon, après, ça reste quand même, et on sent aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour entre ces deux personnages.
Ouais. Et ce veilleur de nuit, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il aiguille. Comment vous l'avez voulu, ce veilleur de nuit?
Le veilleur de nuit, oui, c'est une présence qui est là la nuit, qui veille. Qui en fait, parce que donc la maman doit partir travailler la nuit, donc laisse son enfant seul dans l'hôtel, et ce qui est tout à fait défendu. Mais bon, voilà, elle est obligée de faire ça. Et donc le veilleur de nuit, c'est un peu la figure qui, même si c'est pas son travail, mais en fait est là pour veiller sur l'enfant et pour soutenir comme il peut, avec ses moyens, avec sa place, pour donner un peu de réconfort, un peu de courage aussi avec des petites phrases à la maman.
Julie Ménard, à un moment donné, Glovy va avoir une relation avec un client. Cette relation, elle fait réfléchir avec des mots pesés que vous avez sciemment choisis.
Elle fait...
Avec le client, comment ça se passe? Parce que ce client, il a beaucoup d'importance aussi.
Le client, alors c'est le client du bar en fait, où la maman travaille. En fait, c'est un méchant, le personnage s'appelle le Shonanar. C'est un méchant, un sale type qui harcèle, on peut dire, qui harcèle la maman de Glovy. Et donc, on voit ce personnage-là uniquement en fait comme il est raconté en fait par la maman. Et donc elle raconte comment est-ce que tous les soirs elle arrive à se débarrasser de ce sale type en employant ses super pouvoirs, qui en fait sont ceux du langage. En fait, elle le renvoie dans les cordes en fait. Elle le renvoie dans les cordes avec la dialectique, finalement.
Est-ce que Glovy se pose les mêmes questions que s'est posée peut-être Julie Ménard dans son enfance?
Oui, Glovy, c'est... En fait, moi, je racontais ça tout à l'heure aux jeunes spectateurs, spectatrices. Moi, j'ai vécu une enfance très, très compliquée, très triste et... en empreinte de violence, et effectivement ce qui m'a fait tenir, c'est ma rencontre avec le théâtre et en fait ma capacité à me dire que j'allais, qu'en faisant ça, en fait, en me mettant dans ma passion, en fait, en cherchant des zones voilà, de réconfort et dans l'amitié et dans l'école aussi, beaucoup, hein, beaucoup dans l'école. Et dans le théâtre, en fait, j'allais essayer de me faire une vie plus jolie.
Et vous avez été reconnue pour ce travail, vous avez été distinguée, ça vous fait quoi ?
Ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait très très plaisir. On écrit seul. Moi, j'écris dans mon salon, toute seule. Et en fait, de voir que cette histoire, elle intéresse les gens, qu'elle plaît aux jeunes lecteurs, ça me fait vraiment très 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 très, très plaisir.
Et la réaction des jeunes scolaires aujourd'hui avec vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les questions ?
Eh ben, j'ai trouvé que leurs questions étaient vraiment super, super intéressantes, super pertinentes. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une très belle écoute. Surtout que voilà, c'est pas forcément évident. Je sais pas s'ils ont l'habitude de faire ça, de faire des rencontres comme ça, d'assister à des rencontres avec une autrice. Mais c'était un moment très, très agréable et très, très, très enrichissant.
Des projets, Julie Ménard ?
J'ai plein de projets, oui. J'aimerais écrire bientôt une nouvelle pièce, d'ailleurs aussi à destination du public adolescent. Voilà.
Merci Julie Ménard.
Merci à vous. Mistral.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.